Ramuncho, deuxième partie, chapitre 3. Raymond, le lendemain matin, errait dans le village et aux abords, sous un soleil qui avait percé les nuages de la nuit, encore radieux comme le soleil d'hier. Soigné dans sa toilette, la moustache bien retroussée, l'allure fière, élégante, grave et beau, il allait au hasard, pour voir et pour être vu. Un peu d'enfantillage se mêlant à son sérieux, un peu de bien-être à sa détresse. Sa mère lui avait dit au réveil, « Je suis mieux, je t'assure. C'est dimanche aujourd'hui. Va, promène-toi, je t'en supplie. » Et des passants se retournaient pour le regarder, chuchotaient un instant puis colportaient la nouvelle. « Le fils de Franchita est revenu au pays. Il a très belle mine. » Une illusion d'été persistait partout, avec cependant l'insondable mélancolie des choses tranquillement finissantes. Sous cet impassible rayonnement de soleil, les campagnes pyrénéennes semblaient mornes. Toutes leurs plantes, toute leur verdure, étaient comme recueillies dont on ne sait quelle résignation lassée de vivre, quelque attente de mort. Les tourments de sentiers, les maisons, les moindres arbres, tout venait rappeler les heures d'autrefois à Muncho, les heures auxquelles Gracieuse était mêlée. Et alors, à chaque ressouvenir, à chaque pas, se gravait et se martelait dans son esprit, sous une forme nouvelle, cet arrêt sans secours. C'est fini. Tu es seul pour jamais. Gracieuse t'a été ravie, et on l'a enfermée. Ces déchirements, tous les hasards du chemin les renouvelaient, les changeaient. Et au fond de lui-même, comme une base constante à ses réflexions, cette autre anxiété demeurait sourdement. Sa mère très malade, en danger mortel peut-être. Il rencontrait des gens qui l'arrêtaient, les raccueillants et bons, qui lui adressaient la parole dans la chère langue basque, toujours si alerte et si sonore, malgré son incalculable antiquité. De vieux bérets, des vieilles têtes blanches aimaient reparler les jeux de paume à ce beau joueur de retour au bercail. Et puis tout de suite, après les premiers mots de bienvenue échangés, les sourires s'éteignaient, malgré ce clair soleil dans ce ciel bleu. Et on se troublait en repensant à Gracieuse voilée et à la Franchita mourante. Un violent reflux de sang lui monta au visage quand, d'un peu loin, il aperçut Dolores qui rentrait chez elle. Bien décrépite, celle-là, elle l'air bien accablée. Elle l'avait certes reconnue, elle aussi, car elle détourna vivement sa tête opiniâtre et dure, couverte d'une mantille de deuil. Avec une demi-pitié à la voir si défaite, il songea qu'elle s'était frappée du même coup, et qu'elle serait seule à présent, pour sa vieillesse et pour sa mort. Sur la place, il retrouva Marcos Iragola, qui lui apprit qu'il s'était marié, tout comme Florentino, avec sa petite amie d'enfance, lui aussi, bien entendu. « Je n'ai pas eu de service à faire au régiment, » expliquait-il, « parce que, tu sais, nous sommes des Guispocoan, nous autres, émigrés en France, alors ça m'a permis de l'épouser plus vite. » Lui, 21 ans, elle, 18, sans terre et sans dessous ni l'un ni l'autre, Marcos et Pilar, mais associés tout de même, comme deux moineaux qui font leur nid. Et le très jeune époux ajoutait en riant, « Que veux-tu ? Le père m'avait dit, « Toi, mon aîné, tant que tu ne te marieras pas, je te préviens que je te donnerai un petit frère chaque année. » « Ce qu'il l'aurait fait, sais-tu bien ? Or, nous sommes déjà 14, tous en vie. » Oh, les simples ceux-là, et les naturels, les sages et les humblement heureux. Raymond le quitta avec un peu de hâte, le cœur plus meurtri pour lui avoir parlé, mais lui souhaitant malgré cela bien sincèrement le bonheur dans son petit ménage d'un prévoyant oiseau. Ça et là, des gens étaient assis devant leurs portes, dans cette sorte d'atrium de branches qui précède toutes les maisons de ce pays. Et leurs voûtes de platane, taillées à la mode basque, qui l'été sont si impénétrables, tout ajourées à cette saison, laissaient tomber des faisceaux de lumière sur eux. Le soleil flambait, un peu destructeur et triste, au-dessus de ces feuilles jaunes qui se desséchaient. Et Raymond, dans sa lente promenade d'arrivée, sentait de plus en plus quel lien intime, d'une très singulière persistance, l'attacherait toujours à cette région de la terre, âpre et enfermée, quand même il y serait seul à l'abandon, sans amis, sans épouse et sans mère. Maintenant, voici la grand-messe qui sonne, et les vibrations de cette cloche le jettent dans un étrange émoi qu'il n'attendait pas. Jadis, son appel si familier était un appel de joie et de fête. Il s'arrête, il hésite, malgré son incroyance actuelle et malgré sa rancune contre cette église qui lui a ravi sa fiancée. La cloche semble invitée aujourd'hui d'une façon si particulière, avec une telle voix d'apaisement et de caresse. Viens, viens, laisse-toi bercer comme tes ancêtres. Viens, pauvre désolé, laisse-toi reprendre aux douleurs qui fera couler tes larmes sans amertume et qui t'aidera à mourir. Indécis, résistant toujours, il marche pourtant vers l'église quand Arochkoa survient. Arochkoa, dans la moustache de chat, s'est allongé beaucoup et dont l'expression féline s'est accentuée. Court à lui, les mains tendues avec une effusion qu'il n'attendait pas, dans un élan peut-être sincère pour cet ex-sergent qui a si grande allure, qui porte un ruban de médaille et dont les aventures ont fait bruit au pays. « Ah, mon Rabuncho, depuis quand es-tu arrivé ? Ah, si j'avais pu empêcher, va. Qu'en penses-tu de ma vieille endurcie de mère et de toutes ces bigotes d'église ? Oh, je ne t'ai pas dit. J'ai un fils, moi, depuis 2 mois. Un beau petit, j'en réponds. Tant de choses nous aurions à nous conter, mon pauvre ami. Tant et tant de choses. » La cloche sonne, sonne, emplit toujours plus l'air de son appel très grave et un peu imposant aussi. « Tu ne vas pas là, je pense bien ?» demanda Rochekoa, désignant l'église. « Non. Oh non !» répond Ramuncho, décidé sombrement. « Eh bien, viens donc. Entrons ensemble goûter le cidre nouveau de ton pays. » À la cidrerie des contrebandiers, il l'entraîne. Tous deux, près de la fenêtre ouverte, s'attablent comme autrefois, regardant dehors. Et ce lieu aussi, ses vieux bancs, ses tonneaux alignés dans le fond, ces mêmes images au mur sont pour rappeler à Ramuncho les temps délicieux d'avant, les temps révolus et finis. Il fait adorablement beau. Le ciel garde une limpidité rare. Dans l'air passe cette senteur spéciale des arrières-saisons, senteur des bois qui se dépouillent, des feuilles mortes que le soleil surchauffe par terre. Maintenant, après le calme absolu du matin, se lève un peu de vent d'automne, un frisson de novembre, annonçant clairement, mais avec une mélancolie presque charmante, que l'hiver approche. Un hiver méridional, il est vrai, un hiver très atténué, interrompant à peine la vie de la campagne. Les jardins d'ailleurs et tous les vieux murs sont encore si fleuris de roses. D'abord, ils parlent de choses indifférentes, en buvant leur cidre, des voyages de Raymond, de ce qui s'est fait au pays en son absence, des mariages qui se sont consommés ou rompus. Et à ces deux révoltés qui fuient les églises, tous les bruits de la messe arrivent pendant leur causerie. Les sons de clochettes et les sons d'orgue, les chants séculaires dont s'emplit la haute nef sonore. À la fin, Arochkoa y revient au sujet brûlant. « Oh, si tu avais été au pays, ce ne se serait pas fait, va. Et encore maintenant, si elle te revoyait. » Raymond le regarde alors frissonnant de ce qu'il croit comprendre. « Encore maintenant ? Que veux-tu dire ?» « Ah, mon cher, les femmes. Avec elle, est-ce qu'on sait jamais ? Elle en tenait fortement pour toi, je t'en réponds. Et ça a été dur. Et de nos jours, il n'y a plus de loi qui la retienne, que diable. Ce que je m'en ficherais pour mon compte qu'elle jette son froc aux orties. Ah là là !» Ramuncho détourne la tête, les yeux à terre sans répondre, frappant le sol du pied. Et pendant le silence d'ensuite, la chose impie, qu'il avait à peine osé se formuler à lui-même, lui apparaît peu à peu moins chimérique, plus réalisable, presque aisé. Non, ce n'est vraiment pas si inadmissible, en somme, de la ravoir. Et au besoin, sans doute, celui qui est là, Arochkoa, son propre frère, y prêterait la main. Oh, quelle tentation et quel trouble nouveau dans son âme. Sèchement, il demande. « Où est-elle ? Loin d'ici ? Ah, si, oui. Là-bas, vers la Navarre, 5 à 6 heures de voiture. Ils l'ont changé 2 fois de couvent depuis qu'ils la tiennent. Elle habite à Mesqueta aujourd'hui, au-delà des grandes chenets d'Oyans à balles. On y va par Mendichoco, tu sais. Nous avons dû traverser ça une nuit ensemble, avec Ichua, pour nos affaires. On sort de la grand-messe. Des groupes passent, des femmes, des filles jolies et d'élégantes allures, parmi lesquelles Gracieuse n'est plus. Beaucoup de bérets rabattus sur des fronts basanés, et toutes ces figures se tournent pour regarder les deux buveurs à leurs fenêtres. Le vent qui souffle un peu plus fait danser autour de leurs verres de grandes feuilles mortes de platane. Une femme déjà vieille leur jette, par-dessous sa mantille de drap noir, un coup d'œil mauvais et triste. « Ah, dit Rochecois. Voici la mer qui passe, et qui nous regarde de travers, encore. Elle en a fait de bel ouvrage ce jour-là, elle peut s'en vanter. La première punie d'ailleurs, car elle finira comme une vieille solitaire à présent. Catherine, de chez Elzagaret, tu sais, vend journée pour la servir. Autrement, elle n'a plus personne à qui parler le soir. Une voix de basse-taille derrière eux vient les interrompre. Un bonjour basque, creux comme un son de caverne, tandis qu'une main grande et lourde se pose sur l'épaule de Ramuncho pour une prise de possession. Ichua. Ichua qui finit à l'instant de chanter sa liturgie. Pas à changer celui-là, par exemple. Toujours sa même figure qui n'a pas d'âge. Toujours son masque incolore qui tient la foi du moine et du détrousseur. Et ses mêmes yeux renfoncés, cachés, absents. Son âme aussi doit être demeurée pareille. Son âme capable de meurtre impassible, en même temps que de fétichiste dévotion. « Ah » fait-il, d'un ton qui veut être bonhomme. « Te voilà de retour parmi nous, mon Ramuncho. Alors, on va travailler ensemble, hein ?»« Ça marche dans ce moment-ci, les affaires avec l'Espagne, tu sais. Et on a besoin de bras à la frontière. Tu redeviens des nôtres, n'est-ce pas ?»«
Mon Dieu, peut-être, » répond Ramuncho. « Oui, on pourra en reparler et s'entendre. »
C'est que, depuis quelques minutes, son départ pour les Amériques vient de beaucoup reculer dans son esprit. Non. Demeurer au pays, plutôt, reprendre la vie d'autrefois, réfléchir et obstinément attendre. Du reste, à présent, qu'il sait où elle est, ce village d'Amesqueta, à 5 ou 6 heures d'ici, le hante d'une façon dangereuse. Et il caresse toutes sortes de projets sacrilèges que, jusqu'à ce jour, il aurait à peine osé concevoir.